Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour à tous! Ce podcast « Mon enfant peut-il être mon ami ?» est en deux parties. Ces deux parties sont indissociables et complémentaires. Et je vous demande vraiment d'écouter les deux parties pour vous faire une idée exhaustive de ce que j'ai à dire sur ce sujet. Merci et bonne écoute. « Mon enfant peut-il être mon ami ?» Cela fait plusieurs fois que j'entends des personnes s'offusquer de nouvelles pédagogies ou de nouvelles parentalités où il existe une forme d'amitié, peut-être, entre le parent et son enfant, ou éventuellement des personnes qui critiqueraient des pédagogies alternatives, où il existe une forme de détente, de fraternité, d'amitié entre des adultes et des enfants. Alors, un enfant peut-il être notre ami, l'ami d'un adulte? Il y a quelques jours, j'écoutais encore un grand philosophe français qui disait que si les banlieues s'enflamment, si le mécontentement s'exprime avec violence sur le matériel ou par des émeutes, c'est aussi du fait d'une relation adulte-enfant en métamorphose qui a changé depuis les dernières décennies, où l'adulte peut entretenir des rapports amicaux avec les enfants. Et il dit si le parent est ami avec son enfant, alors nous sommes en plein déclin dans une forme de dérive qui est préjudiciable et qui va créer ce type de comportement. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais observer avec vous aujourd'hui. Est-ce que ce type d'affirmation est valide? Est-ce que effectivement il peut y avoir une forme d'inconvénient, voire carrément de dérive sociétale, du fait d'être dans une forme de ressenti affectif amical avec ses enfants, avec son enfant? Pour regarder cette question de plus près, j'ai eu besoin de faire une petite liste de ce que moi j'estime être de l'amitié ou la définition de ce que c'est qu'un ami, pour voir dans quelle mesure les critères de définition de l'amitié peuvent s'appliquer ou non à la relation adulte-enfant et quels en seraient éventuellement les inconvénients. Donc un ami, c'est une personne qui compte et également quelqu'un sur qui on peut compter. Un ami, c'est une personne avec laquelle on a plaisir à passer du temps et à faire des activités. Ça peut être aussi une personne, bien sûr, et en premier lieu, pour laquelle nous avons de la considération et du respect. Ça semble difficile de se sentir en amitié avec quelqu'un si on n'a pas de la considération pour cette personne et si cette personne n'éprouve de la considération pour nous-mêmes. C'est une personne, un ami, pour laquelle on a un attachement affectif réciproque. Et également une personne à qui on peut confier ses états d'âme, avec laquelle on peut être authentique, sincère, et qui peut nous donner de l'empathie. Et éventuellement, réciproquement bien sûr, puisqu'on peut aussi donner de l'empathie à son ou ses amis. Et a priori, ça fait partie des postures que nous attendons dans l'amitié. Un ami, c'est aussi une personne avec qui on peut partager d'égal à égal. Il y a une forme d'horizontalité dans l'amitié. On peut difficilement imaginer en amitié qu'il y ait une personne qui soit dans une position de supériorité ou d'autorité. C'est vraiment une forme d'égalité qui prévaut dans l'amitié. Et dernière chose que je vois, bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, je vous invite à faire la vôtre, c'est qu'en amitié, ça peut s'interrompre, c'est-à-dire qu'une amitié n'est pas forcément pour la vie. On a peut-être dans notre entourage quelques amis très précieux qu'on a depuis parfois l'enfance et qui continuent d'être nos amis. Mais ça reste assez exceptionnel ce type d'histoire. On peut se rendre compte que dans notre vie, on a des amis qui partagent une tranche de vie avec nous, puis après qui disparaissent ou qui s'éloignent. Ça peut être pour des raisons de conjoncture, pour des raisons géographiques, parce qu'on est investi à un moment donné dans une organisation, dans une cause, et puis qu'on va lâcher à un autre moment. Donc, on ne partage plus de temps ou de disponibilité avec ces personnes-là qui étaient nos amis à un moment donné. Donc, une amitié peut s'interrompre, mais pour ce qui concerne nos enfants, on ne peut pas les quitter, on ne peut pas renoncer à la relation. C'est même au niveau légal que nous sommes définis par notre identité, par aussi notre filiation. Et quand on a un enfant, c'est un attachement, un lien, une relation qui va de toute façon nous définir à vie. Même si il y a des personnes qui renoncent à cette filiation, donc ce sont des cas extrêmement rares. C'est une maman par exemple qui accoucherait sous X, ou des enfants qui seraient placés, adoptés, et donc dont les parents biologiques n'entretiendraient plus la relation pour des causes souvent dramatiques, souvent extrêmes, mais qui restent vraiment une minorité de cas. Dans tous les autres cas, nous ne pouvons pas quitter nos enfants, nous ne pouvons pas quitter cette relation. Elle se transforme au fil du temps, évidemment, puisque l'enfant, quand il a atteint sa majorité, va prendre ses décisions par lui-même et va prendre en responsabilité l'ensemble de ses actes. Mais il y a aussi des nuances dans cette prise de responsabilité liée à l'âge adulte, puisque même d'un point de vue légal, est nommée la responsabilité que nous pouvons avoir à l'égard de nos parents vieillissants, par exemple. Nous sommes des ayants droit les uns pour les autres et nous avons un certain nombre de responsabilités à l'égard de ceux qui constituent notre famille. Donc évidemment, ce lien qui nous attache à nos proches a cette différence avec l'amitié qu'on ne peut pas y renoncer. Donc ce point-là, effectivement, ne s'accorde pas avec la définition de l'amitié. Mais je vais passer en revue tous les autres points qui sont évidemment ceux qui m'intéressent. Alors, est-ce que dans une relation avec mon enfant ou avec un enfant dont j'ai une forme de responsabilité, par exemple en tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur, ou simplement un petit voisin ou un filleul ou quelqu'un qui entre dans ma vie et qui est entré dans ma vie et qui est un enfant? Est-ce que ça peut être une personne qui compte, une personne qui peut compter sur moi? Évidemment, oui. Cette partie de la définition colle complètement. Et même, c'est très important que les enfants puissent compter sur des adultes. Des adultes, d'ailleurs, qui ont de la considération pour eux et du respect. Parfois même, c'est déterminant. C'est ce que disent des personnes comme Boris Cyrulnik ou comme Alice Miller. Alice Miller parlait du témoin lucide, c'est-à-dire de cette rencontre qui va changer les données pour nous dans notre vie lorsque l'on vit des situations difficiles, traumatisantes ou dramatiques, comme la perte d'un être proche ou la violence d'une guerre ou la violence domestique ou l'inceste ou même des situations moins intenses mais qui vont nécessiter le regard d'un témoin lucide. Donc ce qu'elle appelait le témoin lucide, c'est vraiment cette personne empathique et bienveillante qui va poser un regard, qui va poser des mots authentiques sur une situation que vit l'enfant pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et lui permettre de sortir d'un malentendu, au moins cognitif ou psycho-affectif, qui pourrait lui faire croire que ce qu'il vit, c'est normal ou c'est de sa faute. J'ai l'exemple de la réalisatrice Mai Wen qui raconte à un moment donné dans ses documents, je ne sais plus si c'est dans un documentaire ou dans une fiction, une docu-fiction, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur sa biographie. Donc Mai Wen, elle a été très maltraitée quand elle était une petite fille et elle raconte à un moment donné qu'il y a une copine au collège qui lui dit que c'est nul ce qu'elle vit chez elle, enfin qu'elle soit frappée et humiliée par son père, que ce n'est pas normal et qu'un bon papa ne se comporterait pas comme ça. Je ne sais plus exactement quels sont les termes de l'échange, de la discussion qu'elle a avec cette copine à ce moment-là. Mais Marianne, elle est tellement choquée par ce que lui dit sa copine, qu'elle devient violente avec elle, elle casse la figure. Et en fait, à ce moment-là, cette copine-là, elle joue un peu le rôle de témoin lucide. D'ailleurs, La preuve en est que dans la suite de sa vie, Maïwenn va prendre conscience de la violence qu'elle subit et travailler dessus et la partager et en faire une cause pour que d'autres enfants puissent réaliser qu'ils sont dans des situations de violence qui sont toxiques pour eux et puissent en sortir. Mais c'est tellement choquant. Pourquoi pour cet enfant à ce moment-là? C'est parce que on est en train de lui dire en fait ce que tu vis n'est pas normal en fait, et c'est en train de bouleverser complètement son champ de compréhension et la logique dans laquelle c'était faite sans doute en tant qu'enfant, à savoir que si le parent frappe, si le parent humilie, si le parent manipule, si le parent est maltraitant, l'enfant croit que c'est de sa faute, c'est parce qu'il est une mauvaise personne, il croit qu'il y a un problème avec lui et non pas que c'est le parent qui a un problème. Donc le témoin lucide, c'est celui qui va remettre de l'ordre dans ce chaos et pouvoir dire ce qui est anormal, ce qui est un préjudice, c'est non pas tes comportements d'enfant, c'est non pas que tu sois comme tu es, mais c'est bien ce que te fait vivre ton parent en étant violent et en pratiquant la violence éducative. Et ça peut changer une vie dans le sens où tout d'un coup, il y a une autre forme de possible qui s'ouvre chez l'enfant, même s'il le savait intérieurement, profondément, intuitivement, parce que nous savons au fond de nous ce qui est juste ou pas, ce qui est bon ou pas pour nous. Nous le savons, mais parfois ce savoir, cette vérité, est dans l'impossibilité d'émerger et de se faire valoir parce qu'il y a du silence autour et il y a du déni autour. Il y a une affectivité mal placée dans le sens où eh bien, nos parents étant nos seuls caregivers, protecteurs essentiels, hein, même si parfois il y a d'autres adultes dans l'entourage, le premier référent de l'enfant, c'est son parent. Donc si le parent est défaillant à cet endroit-là, voire s'il est complètement incompétent ou distordu par rapport à la violence qu'il fait subir à l'enfant, eh bien, il faut qu'il y ait à un endroit un miroir qui reflète cette réalité. Et ce miroir-là, c'est un témoin lucide, c'est une personne bienveillante. Donc lorsque la définition d'un ami, c'est en même temps une personne qui compte et sur qui on peut vraiment compter, et en même temps une personne pour laquelle nous avons de la considération et du respect et qui a de la considération et du respect pour nous, j'ajouterais que c'est une personne qui nous reconnaît. Et dans ce sens, avoir un ami dans son entourage qui serait un adulte, ça peut être salvateur même, ça peut être ce témoin lucide qui va nous permettre de sortir d'une situation qui est vraiment délétère pour notre épanouissement. Qu'un ami soit une personne avec laquelle on a plaisir à passer du temps et faire des activités, alors oui, on va retrouver effectivement cette qualité dans la relation adulte-enfant lorsqu'elle est de bonne qualité et que l'adulte se rend vraiment disponible. On peut avoir plaisir à passer du temps et faire des activités avec nos enfants, nos petits-enfants ou même les enfants des autres. Et c'est très nourrissant pour l'enfant, cette qualité de lien. Ça va lui permettre d'être stimulé, de se sentir apprécié, de sentir l'importance que peut avoir sa personne et son existence dans les yeux de quelqu'un. Et c'est une forme d'amitié qui est très précieuse. Qu'un ami soit une personne pour laquelle on a un attachement affectif réciproque, eh bien, ça existe dans la relation parent-enfant. C'est déjà là. Donc, c'est une définition qui colle aussi avec la qualité de l'amitié. Sauf que cet attachement à notre enfant, eh bien, il est encore de qualité différente puisqu'il est quasi viscéral, on pourrait dire. C'est clair que si nous sommes dans un bâtiment qui prend feu, la première personne qu'on va attraper, même si on est avec des dizaines d'enfants autour de nous, c'est un réflexe tout à fait humain d'attraper son enfant en premier pour le tirer des flammes. Je pense que n'importe quelle mère ou n'importe quel père va réagir ainsi et que ça serait problématique ou ça poserait question que ce ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous invite à rechercher. C'est un film des pays nordiques, je ne sais plus si c'est finlandais, suédois, norvégien, je ne sais plus. Et le scénario, c'est qu'il y a une petite famille qui est à la neige, donc pour les sports d'hiver, et qui est assis tranquillement à la terrasse d'un chalet qui se situe au pied des montagnes. Et il y a une avalanche qui se déclenche et qui déboule vraiment sur la terrasse du petit restaurant. Et le papa, dans sa panique et son réflexe, attrape son iPhone qui est posé sur la table et s'enfuit. Tandis que la mère, elle, attrape ses enfants pour les mettre en sécurité. Et c'est très intéressant ce scénario parce que ça dure quelques secondes évidemment et c'est vraiment le corps et l'inconscient qui parle et qui fait que ce papa, plutôt d'attraper ses enfants, il attrape son iPhone et s'en dit. C'est une très belle métaphore de notre société numérique qui a créé de la prothèse numérique qui est comme un prolongement de notre propre vie parce qu'effectivement, peut-être avant d'attraper ses enfants ou avant de prendre soin de la vie de ses enfants, on a à prendre soin de la nôtre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans les avions. D'abord, vous mettez votre masque à oxygène, puis ensuite, vous mettez celui de vos enfants. Donc oui, cette logique-là, elle est respectable quelque part, parce que pour pouvoir mieux prendre soin de l'autre, il faut d'abord prendre soin de soi, même dans des situations d'urgence. Ça, on peut le comprendre. Mais de là à ce qu'un papa attrape son iPhone et non pas ses enfants, alors que lui, il est valide et tout à fait apte à courir pour se protéger d'un danger, là, on a quand même un grand, grand questionnement. Et donc, là, dans la suite de ce scénario, c'est intéressant parce que tout se passe un petit peu dans le silence. Cette maman, elle a enregistré cette scène et elle est extrêmement choquée au dernier degré. Et elle va distiller ce questionnement que vient réveiller chez elle cette situation petit à petit dans le film, en filigrane, sans savoir si vraiment c'est légitime de remettre en question ce geste ou pas. Donc c'est une très belle métaphore de notre société actuelle où les priorités changent et où on peut se demander vraiment si on n'est pas emmené dans une forme de folie avec cette assistance numérique continue qui envahit mais le plus intime de nos vies, quoi. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ce film qui est assez intéressant. Et juste pour dire que, évidemment, l'attachement que nous avons pour nos enfants est d'une qualité encore plus prégnante, encore plus inconsciente aussi que l'attachement qu'on peut construire avec un autre enfant dans la plupart des cas. Après, il peut y avoir des histoires extraordinaires où vraiment il y a un lien très très solide, très puissant qui s'est construit entre des voisins ou entre une nounou et un enfant ou des choses comme ça, mais ça reste des histoires de vie qui sont exceptionnelles. Et ce qui va caractériser la relation parent-enfant, c'est vraiment cet attachement absolument comme s'il y avait un aimant surpuissant. D'ailleurs, le mot est joli, hein, aimant. Un aimant surpuissant qui relie le parent à son enfant. Mais on peut imaginer une très grande puissance aussi dans une relation d'amitié, y compris avec un enfant, pourquoi pas. Après, on pourrait digresser de savoir si c'est un substitut à des manques. Voilà, je vous laisse imaginer toutes les situations qui pourraient être reliées à une amitié adulte-enfant. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est d'étudier est-ce que effectivement le fait que dans la nouvelle parentalité, on va considérer parfois qu'un sentiment d'amitié ou des relations qui ont l'air d'être des relations amicales entre des adultes et des enfants, ça peut donner lieu à des dérives et notamment des comportements où il n'y a plus de respect, où il y a une forme de désinvolture dans la relation adulte-enfant. Est-ce qu'on va être considéré parfois comme de l'irrespect ? Alors, une chose très simple, par exemple, à souligner, c'est que dans les écoles alternatives, dans 90% des cas, peut-être plus, les adultes et les enfants se tutoient mutuellement, s'appellent par leur prénom. Et effectivement, il y a une forme de détente dans le sens où les enfants ont une grande confiance dans les adultes et peuvent même leur confier des petits secrets, leur faire des confidences ou parler de sujets qui ne sont pas ni des maths, ni de la conjugaison, ni de la grammaire. On peut parler de plein de choses très différentes, de tout ce qui en fait préoccupe l'enfant. On peut partager des jeux de société, des activités, des jeux de plein air, on peut rire ensemble, on peut se raconter des blagues, on peut se faire des surprises, on peut... comme on le ferait effectivement avec des amis dans une maison de vacances. C'est cette ambiance-là très souvent qui est à l'œuvre dans les écoles alternatives. Tandis que de plus en plus, il y a un rappel à un ordre qui établit autour de la relation d'autorité et qui est même réclamé, et notamment par notre gouvernement actuel et par des tendances actuelles, à un retour au respect de la hiérarchie et au respect de l'autorité enseignante, etc., du corps enseignant, où on remet l'enseignant au centre de la classe, alors que des gouvernements précédents avaient mis l'enfant, l'élève au centre de la pédagogie. Donc voilà, on assiste à une espèce de retour forcé, même on parle de retour de l'uniforme, de retour de la posture, de la position debout quand le professeur entre en lui disant bonjour à bonjour maître ou bonjour monsieur à l'unisson, etc. Enfin, des traditions plutôt désuètes, plutôt dépassées peut-être par rapport aux circonstances actuelles. Et qui rappelle les ordres, en fait, hein, les ordres militaires, les ordres religieux, les ordres du pouvoir, les ordres hiérarchiques, et qui concourrait à inspirer davantage de respect pour les adultes et pour les institutions, pour tout ce qui représente l'autorité. Ce discours, évidemment, vient dans un contexte où de plus en plus de jeunes vont exprimer leur colère ou leur désaccord de manière violente, soit en répondant violemment aux adultes en classe ou en ayant des actes de désobéissance, parfois en allant beaucoup plus loin, en maltraitant des professeurs ou en les malmenant parfois gravement. Et comme réponse à cette problématique sociale, la réponse la plus conventionnelle, c'est un retour à l'obéissance et un retour à la relation de domination, la relation de respect de la hiérarchie qui devrait remettre de l'ordre dans tout ça. Alors personnellement, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que en mettant plus de cadres et de violence dans la relation, on obtienne plus de respect. Je crois même que c'est le contraire, même si dans un premier temps, peut-être, on va obtenir une forme de soulagement parce que la forme va changer. À mon avis, ça ne change pas le fond et même c'est une forme de déni du fond, du déni de ce qui s'exprime au fond et qui correspond bien à toute la remise en question que je fais de la relation dominant-dominée et de ses dérives. Donc, lorsque on se questionne sur pourquoi ça peut être problématique qu'un adulte ait une relation amicale avec un enfant, eh bien, effectivement, là où ça ne colle pas, là où la définition de l'amitié ne peut pas s'exprimer, c'est lorsqu'il y a un lien ou une relation de subordination. Les adultes qui prétendent que cette relation amicale avec un enfant peut être délétère ou peut être préjudiciable ou peut donner lieu à des dérives, ce sont ces mêmes adultes qui croient nécessaire d'entretenir avec l'enfant un lien de subordination. Et en amitié, le lien de subordination n'est pas possible. Je ne crois pas que vous aimeriez ou qui que ce soit apprécierait que son ami soit son supérieur en autorité, un supérieur hiérarchique, que ce soit lui qui prenne les décisions, qui ait le pouvoir, etc. Ou vice-versa, que ce soit vous qui ayez ce pouvoir sur lui. Je crois que toute relation de pouvoir est potentiellement destructeur pour une relation amicale. Et c'est peut-être ce qui se dit à travers l'observation qu'une relation amicale met le bazar dans la relation adulte-enfant et crée de l'irrespect systémique avec des jeunes qui vont brûler des voitures pour s'exprimer ou qui vont claquer la porte d'une classe ou traiter le professeur avec des noms d'oiseaux, etc., etc. Moi, à cet endroit-là, je vois d'abord et avant tout de la colère. Et ce qui m'interroge, c'est le fond et non pas la forme. C'est pourquoi est-ce que ces jeunes sont en colère et qu'est-ce qui fait qu'ils sont en colère? Et je crois qu'effectivement, cette colère et cette violence qui naît de cette colère sont systémiques, mais pas de la même manière que des collègues penseurs qui vont estimer que c'est parce qu'il faut resserrer la vis sur ces jeunes qui partent en cacahuète. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille resserrer la vis, je ne pense pas que la violence soit un recours, un ressort, ni la punition, ni l'autoritarisme, etc. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment cette forme d'irrespect, parce que je considère que c'est un irrespect, de soumettre un autre être à notre pouvoir, dès son plus jeune âge, de surcroît, et que c'est ça qui va créer des situations fortement problématiques de violence, et même de violence systémique, comme la guerre ou la dualité entre des classes sociales ou le combat politique, les dérives autoritaristes, où qu'elles soient, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les couples. À partir du moment où on légitime la relation de pouvoir et on légitime le fait qu'un être peut être souverain sur un autre être, et à ce moment-là, pourquoi s'étonner que ce schéma soit reproductible à l'infini et autorise, d'une manière ou d'une autre, à prendre le pouvoir sur une personne, un groupe, un peuple. Évidemment que si nous sommes organisés relationnellement ainsi depuis notre plus jeune âge, c'est ce qui va se répliquer et se répliquer et se répliquer ainsi. Donc moi, tout mon travail, tout mon propos, c'est de dire, est-ce que nous sommes capables de redevenir humains? Ça veut dire de redevenir des super empathes, des caregivers les uns pour les autres et de cultiver des relations gagnant-gagnant, des relations d'équivalence. C'est une équivalence qui n'est pas à relier à des fonctions, des responsabilités ou des âges, et ça je vais y revenir, c'est une équivalence de principe. Tu es une personne, je suis une personne, peu importe l'âge que tu as, nous sommes en situation d'équivalence dans le sens où tu as des besoins, j'ai des besoins, et que tous ces besoins doivent légitimement être observés et respectés. Il n'y a pas d'âge où soumettre les besoins et un âge où les besoins doivent absolument être honorés. Un besoin, c'est un besoin chez un être vivant, chez un humain, et il se doit d'être considéré. Quand j'ai accueilli mes enfants en tant que maman, à aucun moment je me suis dit « voilà un petit être que je vais pouvoir contrôler, à qui je vais donner la bonne parole, la bonne direction, que je vais pouvoir conditionner à mon image et à l'image de mes croyances, parce que je veux que cet être devienne comme je le vois, je voudrais que cet être devienne comme je vois la vérité, comme je vois le monde, comme je vois la réussite. » Parce que pour moi, la vie reste un grand mystère devant lequel je me sens toute petite. Et lorsque j'ai accueilli chacun de mes enfants, ça a été avec le même émerveillement et une sorte de timidité. J'ai été impressionnée à chaque fois par cette vie qui arrive au monde, qui est unique et qui est un grand mystère et dont j'ignore tout. Quasiment, parce que chaque être étant unique, chaque être étant issu d'un espace qui m'est inconnu, pour aller vers une destination qui m'est aussi inconnue, dans le sens où lorsque vous accueillez votre bébé, vous ne savez pas du tout qui il est et ce qu'il va devenir, ce qu'il doit devenir. La seule chose qui me reste à cet endroit-là, c'est une immense confiance et une forme de dévotion pour la vie qui s'exprime à travers un être. Et en fait, je ne peux pas m'ériger en autorité devant cette grandeur-là. La seule chose que je peux faire, c'est m'occuper de la propre existence qui est la mienne, donc de m'occuper de mon exploration personnelle, de comprendre qui je suis, de comprendre ce que j'ai à faire, de comprendre où sont mes talents, où sont mes compétences, de comprendre où sont mes zones de liberté, où sont mes expressions, et de m'accorder, de m'aligner avec mon environnement, avec de manière juste. Et pour cela, j'ai des repères intérieurs qui sont mon empathie, qui sont mon équipement intérieur pour pouvoir percevoir et ressentir la vie, qui sont tous mes sens perceptifs, qui sont mon intelligence, l'intelligence à laquelle je suis reliée et interconnectée avec toute l'intelligence de tout ce qui vit. Et à partir de là, des formes réduites de croyances, comme croire qu'on détient la vérité, croire qu'on détient une connaissance de ce qui est bien et que l'on doit refuser, rejeter, et d'abord désigner ce qui est mal Évidemment, on a une expérience à partager par rapport à ça et on a une forme de connaissance intérieure de ce qui convient, ce qui ne convient pas, et ne serait-ce que parce qu'on est capable de ressentir et de relier ces ressentis à des besoins fondamentaux, alors on peut partager les uns et les autres à ce sujet. Partager sans imposer. Lorsqu'on est dans cette congruence, lorsqu'on est dans cet alignement avec ce qui existe en nous, ce qui est vivant en nous, avec notre expérience et notre vécu, eh bien, le simple fait d'être aux côtés de l'enfant et de pouvoir échanger avec l'enfant sur ces thématiques-là, d'une manière très authentique, d'une manière très sincère, d'une manière très accompagnante aussi. Effectivement, l'enfant va se sentir soutenu dans sa propre démarche d'exploration de la vie. Est-ce qu'on a besoin d'être autoritaire à cet endroit-là? Parfois, on a besoin de mettre une immense clarté dans ce qui est possible ou pas. Parce que lorsque l'enfant explore certains comportements, certains gestes, certaines actions qu'il va mettre en œuvre, comme par exemple, moi, à un moment donné, j'ai un de mes enfants, il a fait prendre un bain à des cochons d'Inde, et des bébés cochons d'Inde, à un moment où j'étais pas dans la pièce, et ça les a noyés, évidemment. Et là, l'enfant, il est complètement démuni face à cette méconnaissance qu'on ne fait pas prendre un bain à un bébé cochon d'Inde, parce que le risque, c'est qu'il se noie. Donc, c'était complètement dramatique comme situation. C'était affreux. Mais là, ce sont des situations qui nécessitent notre accompagnement. Là, c'est un cas assez important que je vous cite, mais il y a plein de petites situations du quotidien, même du moment présent, où l'enfant il a besoin de notre connaissance, il a besoin de pouvoir se relier à notre expérience. Et là, on partage. Mais a-t-on besoin pour autant de prendre le pouvoir sur lui? Dans la grande majorité des cas, non. Il y a des cas où, oui, on va prendre le pouvoir sur lui parce qu'on va le retenir fermement par le poignet ou par la main alors qu'il veut traverser la route pendant qu'il y a une voiture ou un camion qui s'avance. Donc là, oui, là, on fait preuve de même d'autoritarisme, si vous voulez, en disant non. Et on le retient fermement pour pas qu'il passe. Ou un enfant qui s'apprête, parce qu'il est en colère, à jeter un gros caillou sur un camarade, là, il n'y a pas d'équivoque, c'est on prend le pouvoir sur le geste et non pas sur l'enfant. On prend le pouvoir sur le geste et on interdit le geste et on l'empêche d'une manière catégorique. Mais je crois qu'on ferait de même avec un ami, n'est-ce pas ? C'est-à-dire s'il y a un ami qui est furieux et qui veut emplâtrer le voisin parce qu'ils ont eu un différend et qu'il l'a mis tellement en colère, et ben, vous allez aussi vous interposer et vous mettre devant cet ami-là et puis lui dire « Écoute, là, c'est pas la solution, on va rentrer, tu vas aller te calmer, bien, on va en parler. » Ce que je veux dire, c'est que cette bienveillance-là que nous avons pour nos amis, nous pouvons les avoir aussi pour nos enfants. Et ça, j'y reviens souvent. Lorsqu'il y a des personnes qui sont un peu perdues dans « est-ce que je dois faire ça ? Comment je dois me positionner ? Est-ce que c'est bien d'intervenir de telle ou telle manière ?» Très souvent, je dis « écoute, quand tu te sens un peu perdu avec ce que tu peux faire ou pas faire, est-ce que c'est bienveillant ou pas ? Imagine que ton enfant, c'est ton meilleur ami. Et comment est-ce que tu l'accueilles ? Comment est-ce que tu l'accompagnes ?» En fait. Et ça, c'est un repère assez fiable parce qu'on a été tellement perturbé par la violence éducative ordinaire que nous avons vue et subie qu'on a perdu le sens de la bienveillance bien souvent. Et on croit que c'est bienveillant parce qu'on confond cette éducation qui est finalement très souvent du dressage ou de la prise de pouvoir avec une relation empathique et bienveillante telle qu'on voudrait peut-être éventuellement la vivre avec nos enfants. Mais qu'on a du mal à se défaire de réflexes éducatifs qui eux, sont plutôt de l'ordre de la prise de pouvoir et n'aident pas l'enfant à grandir lui-même en bienveillance et en empathie. Donc pour revenir à ces jeunes qui brûlent des voitures ou qui incendient des magasins et qui expriment leur colère et leur désaccord et leur mécontentement avec des gestes de violence, pour moi, il n'y a vraiment... aucun hasard là-dedans, c'est juste la conséquence du mépris, c'est la conséquence de l'autoritarisme, c'est la conséquence de relations de compétition que l'on fait vivre aux enfants dans les écoles, avec les bons et les mauvais élèves, avec l'humiliation de ne pas arriver parfois à apprendre suffisamment ou de ne pas avoir de bons résultats, avec l'humiliation d'une histoire aussi qui est celle de la conquête de territoires, de la colonisation, des guerres, donc avec des gagnants et des perdants à tous les étages, avec des mutilations identitaires à tous les étages, avec du manque de considération justement, du manque d'écoute et d'empathie, parce que ce n'est pas le sujet en fait, ce n'est pas le sujet de l'éducation ordinaire. On n'est pas là pour écouter, pour donner de l'empathie. Ça, on va appeler ça du laxisme, on va appeler ça de la mollesse, on va appeler ça de la fragilité relationnelle, alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'une société dignement civilisée qui va savoir prendre soin d'elle-même, de ses congénères, et qui va savoir prendre soin de son environnement, c'est une société dont le socle est réellement humain, c'est-à-dire un socle de caregiver, un socle empathique, un socle qui a de la considération et du soutien pour l'ensemble des besoins qui se manifestent chez les êtres vivants. Voilà pourquoi la relation d'amitié me semble être une excellente base pour se repérer dans le niveau de bientraitance que nous mettons dans une relation. Et à ce titre, elle est extrêmement intéressante. On n'est pas obligé non plus de qualifier la forme de relation que nous mettons en œuvre avec les enfants. Si on le qualifie, c'est pour pouvoir échanger et notamment confronter nos désaccords. Là, dans ce podcast, je vous fais part d'un endroit où je ne suis pas forcément, même pas du tout en accord avec une affirmation qui dit lorsqu'il y a un sentiment d'amitié qui est développé entre adultes et enfants, alors forcément c'est n'importe quoi et ça va devenir des relations d'irrespect où il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de structure, c'est le chaos, etc. Ben, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, une affection de bonne qualité, c'est extrêmement structurant. Et je le constate tous les jours avec les enfants que j'ai accompagnés pendant plus de 20 ans, dont les miens, puisque l'aîné a 25 ans, et qui sont, d'un point de vue relationnel, extrêmement compétents, et qui ne font pas partie des jeunes qui ont envie, qui sont en colère et qui ont envie d'incendier ou de maltraiter. Même quand ils ont des désaccords, je les vois fonctionner. Et évidemment, ils s'appuient sur la culture de la médiation, la culture de l'empathie, la culture de l'écoute dont ils ont bénéficié depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, donc je pense qu'effectivement, dans un monde où le repère unique, c'est la relation dominant-dominée, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité à laquelle il faut se soumettre. Et donc, ça pose le problème que lorsque on ne s'y soumet plus, c'est le chaos et l'ordre est bouleversé. Hein, y a les repères sautent et comme il y a de la résistance à cet endroit-là, la seule manière de faire valoir, en tout cas la manière que trouvent les plus jeunes, et, mais pas que, hein, on a vu dernièrement et on le voit dans le monde entier, à quel point les soulèvements sont violents, utilisent la violence pour se faire entendre. C'est un peu le recours unique qui est possible lorsqu'il y a un cadre de domination. Pour faire sauter ce cadre, pour le remettre en question, eh bien, il faut rentrer dedans avec force, puisque ce n'est pas un endroit qui va se mettre en posture d'écoute, en posture de diplomatie, en posture de coopération. C'est juste un endroit qui est en train de tenir ses acquis. Il y a un carcan dans lequel il faut rentrer avec force et avec violence pour pouvoir se faire entendre, malheureusement. Et je le déplore parce que je préférerais que nous vivions, et je travaille pour ça, dans une culture de la médiation, dans une culture de l'écoute, dans une culture de la coopération, dans une culture de l'empathie, où on va prendre soin de l'ensemble des besoins des parties prenantes et non pas soumettre les uns à servir les besoins des autres. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous sera utile et je vous invite bien sûr à liker ce podcast pour qu'il puisse cheminer davantage sur le réseau. Évidemment, je suis aussi à votre disposition pour approfondir certaines thématiques qui vous seraient plus personnelles et qui vous auriez besoin de partager avec moi dans un autre cadre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.